vous présenter Charlemagne et l'Occident médiéval. Charlemagne est un personnage en effet d'exception dans l'histoire médiévale, qui est né en 742, le 2 avril on le sait, mais sans que l'on sache en revanche très curieusement si cette naissance est située avant ou après le mariage de ses parents, qui eux en tous les cas sont bien connus, puisqu'il s'agit de Pépin, dit le Bref, et de Bertrade, dite aussi Berthe au long pied. Et donc, selon certaines sources, le mariage n'aurait été, paraît-il, qu'en 749, ce qui est peut-être un petit peu gênant. C'est un des points qui sont gênants, parfois peut-être pour la canonisation impériale qui a été menée au XIIe siècle, mais passons. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les parents ne manquent pas d'envergure. Je vous rappelle que Pépin, dit le Bref, avait longuement manœuvré depuis la mort de son père Charles Martel en 741, d'abord pour récupérer l'héritage, entre guillemets, puisque héritage est difficile à dire, son père avait simplement collectionné les mairies du palais, c'est tout, il n'était pas roi, mais au départ du moins, et il avait fini par la suite par le devenir, on va le voir. Son père avait aussi rallier l'Église, non sans difficulté, c'était pas simple. Il fallait qu'il rallie à lui beaucoup de fidèles, et en même temps, il n'avait pas grand-chose à distribuer, surtout, il ne voulait pas se retrouver dans la situation des Mérovingiens, qui, à force d'avoir tout distribué, n'étaient plus intéressants pour personne. Et le tout premier des Carolingiens, Charles Martel, avait eu des méthodes expéditives qui consistaient tout simplement à prendre les terres de l'Église. Mais évidemment, ça n'avait pas été très bien reçu, comme on dirait maintenant, par celle-ci. Et donc, Pépin avait inventé un autre procédé, la précaire, qui permettait de prier l'Église, de mettre à disposition des terres et des droits, moyennant un droit qui montrait bien que l'Église restait toujours propriétaire. Et Pépin également avait su développer les relations avec la papauté, suffisamment pour que celle-ci l'aide au fond à déposer le dernier roi mérovingien Childéric III, pour se faire proclamer roi de France par l'Assemblée de Soissons de 751, et ensuite se faire sacrer par l'évêque Boniface en attendant que ce soit plus tard, quand il l'a pu, par le pape Étienne II en 754, et là, le sacre, on le sait, a inclus sa femme Bertrade ou Berthe et les enfants. Et bien entendu, en contrepartie, il y avait une contrepartie forcément, qui était, c'est bien connu, l'intervention en Italie contre les Lombards qui menaçaient énormément la papauté d'une part, et la remise de territoire au pape, selon ce que les historiens appellent la fausse donation de Constantin. En principe, jadis, Constantin, le premier empereur romain chrétien, aurait donné un certain nombre de territoires à l'Église et qu'en somme, Pépin ne faisait que venir les restituer. Le faux est une industrie médiévale, c'est bien connu et ça s'est fait à tous les échelons. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, parfois sans compliquer la tâche des historiens pour savoir à quel degré ils doivent prendre un document. Cela dit, après quoi Pépin a refoulé les Saxons, récupéré la Septimanie, comme on appelait le Languedoc à l'époque, en 759 contre les Arabes, plié à la vassalité les plus rétifs, c'est-à-dire les ducs de Bavière et d'Aquitaine. Tenant, ce personnage en pleine activité est mort à 54 ans en 768. C'était déjà un âge important pour l'époque, mais il n'avait sûrement pas réalisé tout ce qu'il avait souhaité. N'empêche que c'était un personnage d'envergure et que Charlemagne avait de qui tenir du côté paternel. Du côté maternel, ça, on en a beaucoup moins parlé. Et pourtant, Berthe au long pied, dont le nom véritable est plutôt Bertrade de Laon, autrement c'est son surnom, après avoir bien conseillé son mari pendant longtemps et être devenue reine, a jugé opportun, durant son veuvage, de pousser le jeune Charlemagne vers un mariage lombard, dans l'idée de faire épouser une fille de roi à Charles et de conforter son pouvoir, et puis d'avoir une alliance franco-lombarde. Elle pensait aussi que ce faisant, ça dériverait la fougue de Charles autrement et que ça permettrait d'avoir une bonne entente avec son frère Carloman, car l'entente ne régnait guère. Mais Carloman étant mort en 771, Charles à ce moment-là a écarté carrément sa mère du pouvoir, a répudié sa femme lombarde et est retourné à la politique paternelle anti-lombarde et pro-pontificale. Voilà donc quels étaient les barons. Chez Charlemagne, la première chose évidemment à laquelle tout le monde pense, c'est bien sûr, et ça sera le premier point que j'aborderai, le constructeur de l'Occident médiéval. Charlemagne est quelqu'un qui a exploité vraiment toutes les occasions d'étendre le royaume des Francs initial, et à force de faire, eh bien, il va finir par recréer un empire romain d'Occident. C'est tout au moins ce qui est annoncé, et en fait, il va créer, comme on sait, une nouvelle géographie politique, sinon religieuse. En préalable, Charles a dû veiller à consolider, bien entendu, le monde franc sur bien des points, et il a eu beaucoup à faire avant de pouvoir arriver à l'Empire. Je résume une activité très foisonnante. En Aquitaine, dès 769, et donc tout de suite l'année de son avènement, le duc d'Aquitaine est contraint à la fuite et Charles installe ici son fils Louis comme roi. Et ce qui montre, d'ailleurs au passage j'aurai souvent l'occasion d'y revenir, ce refus de Charlemagne d'une politique totalement unitaire au sens de l'unification, de l'uniformisation absolue. On y reviendra. Mais quand même, dans ce secteur de l'Aquitaine, les Vascons, qui s'étendaient alors de la Garonne jusqu'à la haute vallée de l'Èbre, ont refusé tout ralliement, et en 778, Charlemagne a exploité en somme une intervention en Espagne pour occuper Pampelune, mais vous savez ce qui s'est passé au retour, ça a été Roncenot. C'est si bien que c'est seulement en 806 que Charles a réussi à faire occuper le pays, même si, en 813, les Vascons ont tenté de refaire le coup de Roncenot, mais alors là, c'était difficile de rééditer une surprise deux fois, et là, ils ont somptueusement raté. En tout cas, Charles a mené massivement, peut-on dire, une attaque alors des Pyrénées occidentales, et les Vascons ont été obligés, cette fois-ci, de plier pour un temps qui resterait à préciser, enfin, pour un temps certain quand même. Autre intervention, pour le moment je vous indique les hors d'œuvre. Autre intervention, ça a été en Bretagne. Charles, là, en quelques opérations mineures, s'est contenté de consolider une marche, c'est-à-dire une zone frontière, une zone tampon, sur le triangle Rennes-Vannes-Nantes, simplement. Enfin, en Bavière, Charles a dû sévir contre le duc d'Assilon, qui s'émancipait beaucoup, développant ses possessions vers le sud jusqu'en Carinthie, cherchant à prendre appui sur les Lombards, ça faisait beaucoup. Après différentes interventions et avertissements, Charles a fini en 788 par occuper les terres de Tassilon de Bavière, qui a été dépossédée. Et du même coup, le corollaire a été immédiatement l'accroissement du rôle de l'évêque de Salzbourg, promu archevêque en 798. Tout ceci, encore une fois, n'était que le hors-d'œuvre. L'essentiel était ailleurs. L'essentiel a concerné une série de pays d'intervention. Il y a eu d'abord l'Italie. En Italie, Didier, le roi des Lombards, entendait contrôler la totalité de la péninsule italienne et notamment le territoire pontifical, tout en cherchant plus loin au nord des alliances avec le duc de Bavière, puisque la Bavière avait déjà des velléités d'extension que vous pouvez encore vérifier dans l'étendue actuelle totalement insolite du Land de Bavière, qui a phagocyté la Franconie et bien d'autres choses. Et en l'occurrence, Charles a fini par se fâcher, lançant par des opérations conjointes deux armées, simultanément à l'automne 773, une passant par le Mont-Cenis et l'autre passant par le Montjoux, ainsi que l'on appelait à l'époque, ce qui allait devenir plus tard, forcément il n'y avait pas encore vécu, le Grand Saint-Bernard. Et il a percé les défenses des Cluses alpines orientales, contraint Didier à capituler à Pavie en 774, pris la couronne de fer des rois lombards et contrôlé ainsi toute l'Italie du Nord, hormis la Vénétie. Par la suite, Charles, adoptant toujours la même politique sur laquelle j'en viendrai, a nommé son fils Pépin roi d'Italie, imposant sa fidélité au duc lombard du sud de la péninsule, mais ne touchant évidemment pas à la Sicile et à la Calabre byzantine, non plus qu'à Venise pro-byzantine. Évidemment, ces secteurs-là devaient se révéler utiles comme secteurs de contact religieux et économique. Et peut-être même, très tôt, Charles a dû penser que se faire reconnaître par Byzance nécessitait peut-être de ne pas affronter directement les Byzantins en Italie du Sud, non. Donc, intervention majeure en Italie. Autre intervention en Espagne. Là, les Arabes étaient toujours menaçants et quoi qu'ait fait le royaume des Asturies pour se défendre avec beaucoup d'énergie, la situation restait toujours préoccupante. Charles, en 778, a marché via la Navarre sur Saragosse, mais là, il faut reconnaître qu'il a échoué sur cette place majeure, sur le plan militaire, des musulmans. Il est donc reparti ensuite du côté méditerranéen, enlevant plus tard Gérone en 785, Barcelone en 803, et arrivant ainsi à créer une marche d'Espagne. À peu près, on discute de ses limites exactes, et je n'entrerai pas dans des querelles qui, pour l'Occident, seraient trop byzantines. Quelque part entre l'Èbre et les Pyrénées. Autre secteur d'intervention. Et désormais, la marche d'Espagne a fixé en somme les forces offensives musulmanes, ce qui a soulagé d'autant plus à l'ouest le très chrétien royaume des Asturies dans le nord-ouest de la péninsule ibérique. Et c'est ce royaume-là qui, du même coup, va pouvoir amorcer la contre-offensive, d'où allait naître progressivement, dans la période 9e, 10e siècle, les royaumes ibériques, tout au moins les noyaux initiaux des royaumes ibériques. De ce côté-là aussi, par surcroît, Charles a pris la précaution d'organiser une flotte permanente qui était basée dans les îles de l'Hérens et qui avait pour mission justement d'assurer la protection des côtes appartenant à l'Empire carolingien. Troisième grand secteur d'intervention, car il y a, je vous ai prévenu, c'est un règne très riche, il y a des masses de choses. Troisième secteur, la Saxe. Alors là, il s'agissait d'autre chose. C'était une question majeure, non pas seulement parce que les Saxons menaçaient en permanence toute la vallée du Rhin, principalement en aval de Cologne, ou parce qu'ils poussaient les Frisons, vous aurez reconnu les habitants à peu près des Pays-Bas actuels, à une révolte quasi endémique, mais il s'agissait vraiment de païens particulièrement endurcis. Les noyaux durs du paganisme étant à l'époque, en effet, d'une part en Saxe, donc le nord de l'Allemagne actuelle, et d'autre part en Suède, ce qui là, pour le moment n'est pas de bon propos. Et ces païens tenaces étaient de surcroît de bons guerriers redoutables qu'il avait manifestés, puisque jadis, lorsque les Romains avaient tenté de pénétrer par là, les légions romaines s'étaient fait proprement tailler en pièces. Eh bien, Charlemagne s'est lancé, en somme, dans la mission impossible, là où les Romains avaient échoué. De 772 à 777, Charles a fait conquête d'abord des pays encadrant la Roure, détruisant au passage la grande idole des Saxons qu'il s'appelait Irminsule, une sorte d'énorme chaîne, paraît-il, qui avait été quasiment déifiée, arrive à Paderborn, où il inaugure sa méthode du baptême en masse et d'installation d'évêchés, et poussant même à certains moments déjà une pointe temporaire sur la Haute-Vézère, mais là c'était encore timide. Cependant, ce n'était qu'un début, et les Saxons sont réorganisés sous la direction de ce personnage que, selon les textes, on trouve sous le nom de Vitikin, Vidukin, etc. C'est toujours à peu près, l'orthographe n'est pas très fixée, toujours le même personnage quand même. Et les Saxons ont contre-attaqué en territoire franc, obtenant des grands succès en 782. Charles, alors, à partir de là, en 3 ans de campagne véritablement impitoyable, dans le style de baptême ou la mort, a réussi à contrôler la vallée de la Vézère et a obligé le chef saxon à une reddition et au baptême. Néanmoins, le reste de la Saxe a repris la lutte dès 793. Alors Charlemagne a dû réintervenir, parachevant alors toute la conquête du nord de la Westphalie jusqu'à la basse Elbe dans les années 794-797. Puis, il a même poussé au-delà de l'Èbre inférieur, dans ce que l'on appelait alors la Nordalbingie, jusqu'au contact des Vikings danois. Son triomphe, le triomphe de Charles, s'est marqué par la fondation notamment de Hambourg, qui lui est due. Les conséquences, évidemment, sont fait sentir très vite. Les Frisons, donc habitants à peu près les Pays-Bas actuels, un grand peuple maritime qui a été révélé par des recherches historiques assez récentes, les Frisons, donc, qui étaient à leur apogée, ont été obligés d'accepter d'entrer dans la fidélité de Charles, ce qui a permis automatiquement de renforcer les liaisons avec les îles britanniques, puisque les Frisons, au fond, contrôlaient très largement la mer du Nord, sinon la Manche. Et ces îles britanniques, déjà volontiers tournées vers le monde franc, ont vu leur relation avec l'Empire de Charlemagne se renforcer très rapidement. Évidemment, le revers de la médaille a consisté dans des inquiétudes croissantes des Vikings qui ont commencé à trouver les Carolingiens, les Francs, bien proches et qui, faute de pouvoir percer la défense que Charlemagne, dans un esprit très romain, avait créée, c'est-à-dire le limès des Saxons, à la base du Jutland, aux confins de l'Allemagne et du Danemark, en somme, eh bien, les Vikings commençaient à tenter le terrain sur mer. À vrai dire, à l'époque de Charlemagne, ils ne se sont pas trop avancés non plus, Charles ayant pris la précaution, là aussi, de ce côté-là, d'organiser une flotte. Ajoutons simplement que cette présence très forte en Saxe et dans les pays voisins a permis aussi d'amorcer une forte influence sur les Slaves qui, pour l'heure, s'étaient avancés jusqu'entre l'Elbe et l'Oder. Quatrième secteur de grande intervention, les pays du Danube moyen. Et franchement, Charlemagne est en route, peut-on dire, toutes les années. Là, il s'agissait d'une autre population, des Avars, une population, semble-t-il, parente des Huns, qui avait traversé la Russie au VIe siècle, pillé tranquillement durant deux siècles les confins byzantins, et puis s'était installé sur le Danube moyen, prêt à profiter, après tout, de quelques initiatives bavaroises et lombardes qui pourraient se manifester contre les Francs pour essayer d'aller plus loin à l'ouest. De ce côté-là, Charles a lancé une grande opération en 791 qui prit le ring, c'est-à-dire l'énorme forteresse circulaire dans laquelle les Avars avaient entassé des siècles de butin, ce qui a fait sensation, et donc il s'est emparé de l'immense butin des Avars, ce qui, naturellement, pour les bénéficiaires de la redistribution du butin, n'a pas été étranger à l'immense popularité de Charles. Et il a complété encore en 795-796, brisant finalement un ultime soulèvement en 799. Et Charles a fixé finalement les Avars dans la future Hongrie et a essayé là aussi de les pousser au baptême. Mais comme il fallait être prudent, que ce n'était pas certain que les choses se passent bien, eh bien il a pris la précaution de créer la marche de Pannonie, vieux terme romain qui était ressorti toujours pour faire romain, puisqu'on réussissait à ressusciter l'Empire romain, qu'on voulait le ressusciter. En fait, il s'agissait réellement de l'Autriche orientale. Et de la même façon, il a créé le duché de Carinthie plus en profondeur, c'est-à-dire, entendez par là, non seulement l'Autriche méridionale actuelle qui conserve le nom, mais aussi l'Autriche occidentale. Alors, le bilan de ce premier aspect du rôle de Charlemagne est facile à faire. Visiblement, malgré la proclamation qui s'est faite en 800 de la reconstitution d'un empire romain d'Occident, ce n'était quand même plus l'empire romain d'Occident. Il n'y avait pas d'Afrique, il y avait fort peu d'Espagne, et en contrepartie, toute une série de territoires septentrionaux que les Romains n'avaient jamais réussi à occuper. Et en définitive, cet empire-là englobait à peu près, soit directement, soit par influence, on y reviendra, toute la chrétienté latine. Un Occident qui a été finalement lentement reconnu par les Byzantins, qui ont bien entendu traîné les pieds, comme vous pouvez l'imaginer, affectant au départ de mépriser ces espèces d'usurpateurs occidentaux, et puis en raison des crises qu'ils ont pu connaître, ont fini par admettre cette réalité dans les années 810-812. Et Charles, toujours visant plus loin, a songé déjà, par négociation avec le calife de Bagdad, à esquisser, et c'en est la première trace, une manière de, disons, de protectorat sur Jérusalem. Donc, vous voyez, voilà un premier pan, le constructeur de l'Occident médiéval, qui est un des pans caractéristiques de Charlemagne. Bien entendu, il y en a bien d'autres. Un deuxième grand volet dans son activité foisonnante que je suis obligé d'essayer de regrouper, c'est l'organisateur d'un empire chrétien. De quelle façon? D'abord, cela a passé forcément par la modification des institutions franques. Charlemagne, tout en essayant de rappeler les principes romains, s'est trouvé évidemment face aux réalités de son propre peuple et donc des institutions issues des Mérovingiens, mais sur un territoire évidemment infiniment plus considérable, à une époque surtout où la vitesse de déplacement quotidienne, quand les conditions étaient optimales, ne pouvait pas excéder 40 km par jour. C'est évident que pour un empire se comptant en milliers de kilomètres, il fallait changer d'organisation. Il fallait donc étoffer ce que j'appellerais avec des masses de guillemets l'administration. C'est un terme bien pompeux pour les réalités. À l'échelon central, ce qui est le lieu d'administration centrale, si vous voulez, c'est ce que l'on appelait le palais. C'est le terme que l'on emploie au Moyen-Âge pour désigner ce que l'on appellerait au Moyen-Âge classique et finissant l'hôtel du roi, l'empereur, ou ce que l'on appellerait à l'époque moderne la maison. C'est la même chose. Ce palais comporte évidemment d'abord et avant tout des services domestiques. C'est quelque chose comme les services de l'Élysée. Et des services domestiques qui sont là, mais qui ont une importance particulière parce que la cour, entendez par là, tout ce qui est échelon central, est totalement itinérante. Donc, il ne faut pas que l'intendance suive, il faut qu'elle précède. Et par conséquent, ces services domestiques ne sont pas minces dans le fonctionnement de l'ensemble. Alors, bien sûr, vous avez des services domestiques dirigés par un sénéchal, et puis il y a d'autres personnages, mais purement domestiques derrière, tels que le bouteiller ou même le connétable, qui est pour l'heure simplement le comte de l'État, celui qui s'occupe de l'écurie royale ou impériale. Mais à côté de ça, on voit monter alors des fonctions. Fonctions d'abord du comte du palais pour la justice. C'est intéressant de voir que, et là, il y a peut-être une petite résurgence des habitudes romaines, qu'il y ait l'idée d'une justice d'appel qui remonte véritablement à l'entourage du souverain. Également, dans ce palais, on observe également la montée, qui reste encore relative, mais la montée quand même, de la chancellerie. Une chancellerie qui reste toujours étroitement liée à la chapelle du souverain et qui est donc dirigée par l'archi-chapelain. Ce n'est pas tellement étonnant que ça se développe. On est quand même dans une phase, timide, mais dans une phase quand même d'une première et encore discrète croissance de l'écrit dans un monde de civilisation de l'oral qui caractérise en général le Haut Moyen-Âge. Ce que l'on voit encore, c'est le développement de la garde avec des unités d'élite auxquelles on donne le nom de Scara, S-C-A-R-A, et le fait d'avoir des unités d'élite proches du souverain aussi rappelle là aussi des traditions antiques. En outre, et toujours lié à cet échelon central itinérant, je le répète, on constate aussi le développement des plaides de PLAIDS, des plaides généraux, c'est-à-dire de ces grandes assemblées qui se tiennent en avril ou en mai, généralement, grandes assemblées de tous les grands, justement, de l'Empire carolingien qui se retrouve à ce moment-là et pour lesquels on délibère des décisions à prendre qui, ensuite, sont l'objet d'une mise par écrit, ce qui est nouveau, point par point, chapitre par chapitre, d'où l'expression de capitulaire pour désigner ce type de document. Voilà donc déjà un renforcement central. À l'échelon régional, le pays, que terme que l'on peut employer pour désigner le pagus latin, est toujours dirigé par un comte qui exerce ici des droits d'autorité publique, ce que l'on appelle au Moyen-Âge d'un mot qui est sans doute lié à des conceptions plutôt germaniques, le ban, B-A-N. Terme qui désigne tout ce qui est notion d'autorité publique et que vous retrouvez aussi bien dans les bans BRNS comme à Mende que dans le bannissement et dans beaucoup d'autres sanctions de la justice du temps. Et le comte, lui, a des pouvoirs judiciaires qu'il n'exerce pas seul. Il est dans un tribunal parfaitement organisé, ce qu'on appelle le MAL, M-A-2-L. Et il a des pouvoirs financiers qui ne sont pas minces, notamment pour le contrôle des domaines impériaux. Il a des pouvoirs administratifs et militaires. Mais ça, ce n'est pas extrêmement nouveau. Ce qui est peut-être plus nouveau, c'est une timide apparition du développement des subordonnés. Le vicomte, qui est son auxiliaire immédiat pour tout le pays, les vicaires ou les centeniers, selon les pays, pour la subdivision de chacun des comtés. Et on a des raisons de penser aussi qu'il y a déjà organisation de plaides aussi de ces assemblées à l'échelon, au même échelon, à l'échelon comtal, l'échelon du pays. Enfin, modification des institutions franques sur lesquelles, rassurez-vous, je ne m'attendrai pas. Il y a également, il faut prendre en compte également dans le domaine militaire, une réglementation très minutieuse de la levée de tous les hommes libres, selon le principe franc, dans chaque comté, en détaillant notamment l'équipement des cavaliers et des fantassins en fonction de la fortune foncière, et, ce qui est normal puisque les combattants s'équipent eux-mêmes, et également une réglementation de la durée des obligations. Cela ne suffit pas. En plus, pour être bien sûr que cette organisation soit cohérente, il développe deux formules, celle des duchés, qui sont des groupes de comtés, que l'on groupe pour des raisons militaires de cohésion et de levée plus rapide dans une région donnée, parfois aussi par respect d'une identité régionale. Et il y a également le développement du système de ces fameuses marches qui sont autant de glacis en Espagne, en Bretagne, en Pannonie ou en Frioul. Voilà pour la modification des institutions franques. Comme l'édifice est considérable, ça n'aurait pas suffi et Charles s'en était très bien rendu compte. Donc, dans l'organisation de cet empire chrétien, un deuxième volet a été la création des moyens de contrôle. Et en quoi Charlemagne voyait juste, parce que véritablement, on se rend compte que quand on fait l'étude sur le long terme des États médiévaux, pour ne pas parler des autres, on s'aperçoit que la vigueur du pouvoir tient justement à la qualité de ces moyens de contrôle. Tout le monde sait que Charles a développé la vassalité royale. Et vassalité royale, c'est-à-dire des vassaux qui soient directement liés par des liens de fidélité à lui. Et bien entendu, comme les vassaux royaux, à leur tour, en ont fait autant, on a vu se développer à toute vitesse de véritables réseaux très hiérarchisés déjà de vassalité. Mais simplement de vassalité, il n'y a pas de fiabilité. On a vu également comme moyen de contrôle l'imposition du serment de fidélité à tous les hommes libres de l'Empire. Ce qui était là aussi une mesure radicale. Bien entendu, vous attendez que j'évoque l'essor des fameux missi dominici que tout le monde connaît, un évêque, un comte associé pour éviter tout risque de, si vous voulez, de copinisme administratif qui eût été fâcheux à ce contrôle. C'est pourquoi un évêque devait toujours se trouver dans la délégation. Moyen de contrôle également, c'est le développement de l'immunité. L'immunité qui est ce privilège de ne dépendre directement que du seul souverain, sans intermédiaire, des comtes ou de toute autre autorité régionale. Et ce privilège de l'immunité est attribué aux évêques. Mais les évêques, du même coup, se trouvent avoir assez vite des obligations, finalement, dans leur circonscription, équivalentes à celles des comtes au temporel. Ce qui, là, accroît d'autant de leur rôle temporel. Et puis, alors, on voit apparaître dans le dispositif, parce que Charlemagne, finalement, a l'art d'enrôler tout le monde, on voit même apparaître, de façon tout à fait étonnante, les abbatiats laïcs. On peut très bien arriver à confier à un monastère, à un abbé laïc, et selon Charlemagne, et du même coup, eh bien, de même que les comtés ou les évêchés, les abbatiens finissent tout doucement par rentrer dans ce que l'on appelle les honneurs, les honores, qui ont un sens très précis à l'époque, ce sont les charges publiques. C'est donc un système, dans l'esprit de Charlemagne, tel que l'Église est là, pour une part, et au plan politique, pour servir de contrepoids, en somme, à l'organisation laïque. Alors, évidemment, à partir de là, dans un raisonnement de ce genre, Charles était obligé de s'occuper, naturellement, de perfectionner les hiérarchies ecclésiastiques. Ce qui, après tout, pour quelqu'un qui était le continuateur de Constantin, de Théodose et d'autres, était, évidemment, dans une certaine logique. Et donc, un autre point de cette organisation de l'Empire chrétien a été le contrôle de la hiérarchie ecclésiastique. Les Mérovingiens, je vous rappelle, étaient seulement, si je puis dire, des rois baptisés. Et ils se bornaient pour leur part à approuver, mais c'était déjà pas mince, les élections épiscopales. D'aucuns y ont vu les prodromes lointains d'un gallicanisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Carolingiens, devenant, eux, des empereurs sacrés, ce qui était tout à fait différent, ce n'était plus de quelconque chef d'État, c'était des empereurs sacrés, vont beaucoup plus loin. Et Charles, en particulier, a donné le ton. D'abord, on constate dans cette nouvelle organisation de la hiérarchie ecclésiastique l'adoption du titre d'archevêque. Terme beaucoup plus clair en matière d'hiérarchisation que le vieux vocable ancien de métropolitain. On constate également que pour ces archevêques, on établit une claire suprématie sur les évêques de la province. Je vous rappelle au passage qu'au Moyen-Âge, le terme de province ne convient exclusivement comme emploi que pour désigner le groupement des diocèses relevant d'un archevêque. Toute autre expression est totalement fautive, et donc il y a en effet une vingtaine à peu près de provinces ainsi dans l'Empire. Et naturellement, cet archevêque a un rôle d'autant plus important qu'il a dans ses attributions la réunion de conciles provinciaux où se règlent toutes les questions de discipline, de législation, etc. La vie de l'Église véritablement se passe à l'échelon des conciles provinciaux et pas ailleurs. C'est évidemment l'élément de tête, l'archevêque. Au palier au-dessous, c'est, dans la hiérarchie 100 ans, c'est le contrôle de l'élection de l'évêque qu'instaure Charlemagne. Il faut au départ la permission d'élire, la permission de procéder à l'élection que donne l'empereur. Ensuite, il y a surveillance de l'élection par un évêque visiteur choisi par le souverain. On verrouille. Et puis enfin, il serait trop prudent, ou après l'élection, il doit y avoir obligatoirement agrément de l'élu par le souverain. Donc vous voyez, le contrôle est très net. Et c'est très net pourquoi ? C'est important parce que l'évêque, qui est déjà aidé par des chanoines, a pouvoir d'ordre, de juridiction, d'enseignement, comme on sait, dans tout diocèse. Il a le droit de visite des églises, de tenue de synode, et je le précise, depuis 803, sur l'injonction de Charles, il doit, normalement, examiner tout candidat au sacerdoce. Donc son rôle est d'importance et est d'autant plus lourd qu'en même temps, j'ai fait allusion, il a des charges temporelles. Alors, vu la lourdeur de la charge, eh bien, il a pour auxiliaire désormais un archidiacre dont le rôle essentiel est d'instruire les causes judiciaires et de juger au moins les affaires mineures. Descendant encore d'un cran dans la hiérarchie, on constate que Charlemagne organise une véritable prééminence d'un curé doyen, ce qui crée une manière de relais entre l'autorité de l'évêque et celui du curé. Celle du curé. Et puis enfin, il y a multiplication par Charlemagne, dernier élément, des paroisses rurales, dont le centre est, à partir de l'époque carolingienne, désormais l'église entourée par le cimetière. Et là, il y a un changement important. Je vous rappelle qu'antérieurement, il y avait usage soit d'une nécropole en dehors de la ville, à ses portes, comme c'est facile de repérer la trace à Lyon, par exemple, ou des nécropoles qui étaient ou dispersées ou un peu concentrées dans la campagne. Maintenant, c'est une autre conception qui prévaut, l'église entourée par le cimetière, de telle sorte que par la présence des corps près du lieu où a lieu le Saint-Sacrifice, il en retombe des grâces pour les âmes. C'est en quelque sorte l'idée qui est en somme développée. Et ces paroisses rurales se développent soit dans le vicus qui est un bourg ou un village selon le cas, soit dans la cour, la courtice cette fois-ci, qui est le centre d'exploitation du grand domaine. Donc il y a un maillage de paroisses rurales qui est en train de se développer. Et évidemment, cet intérêt à la fois politique et religieux pour l'Église va pousser automatiquement Charles dans une autre direction encore, qui est la vie intellectuelle et artistique. D'où je suis amené à envisager maintenant un autre volet de son activité qui est énorme, encore une fois, c'est le maître de la Renaissance carolingienne. Et évidemment, je commencerai là, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, par l'évolution intellectuelle. Au fond, on a affaire à une situation assez paradoxale. Charles semble avoir été, au moins originellement, un illettré. Ça ne veut pas dire qu'il ignorait tout. Et ça veut dire que c'était un homme qui avait été bien instruit par la culture orale et non pas par la culture écrite. Ce qui n'avait rien d'extraordinaire dans un temps de prédominance d'une culture orale. Charles a eu sans doute une formation militaire et politique, des rudiments généraux d'une formation, encore une fois, entièrement orale. Mais lui-même était doué d'une curiosité absolument insatiable. Et il a organisé auprès de lui une véritable audition des lettrés de toute l'origine géographique. Et c'est, au fond, peu important qu'on sache qu'il n'ait jamais su écrire convenablement. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il s'est formé par l'oral, graduellement, et même surtout une fois maître du pouvoir, c'est-à-dire à plus de 30 ans. Et il a 40 ans quand il attire au palais, au sens que j'évoquais tout à l'heure, le personnage qui va être absolument capital dans l'histoire de la Renaissance carolingienne, Alcuin. Alcuin, qui est vraiment un éminent représentant de cette culture anglo-saxonne, en particulier à York, en l'occurrence, de cette culture anglo-saxonne qui, très curieusement, avait été la première à se lancer dans un véritable mouvement de renaissance, ce qui peut vous surprendre, mais qui vous surprendra moins, si vous savez, vous vous rappelez plutôt deux choses. Premièrement, que la conversion de l'Angleterre, au sens précis du terme, la terre des Angles et des Saxons, avait été due à des missions parties de Rome directement, et d'autre part, si vous vous souvenez, que depuis des temps qui remontent bien au-delà du Moyen-Âge, il y avait des liens entre l'Irlande et le monde grec. Et par conséquent, qu'une culture antique se soit redéveloppée dans les îles britanniques n'est pas en fait aussi surprenant que la géographie pourrait le faire croire. Et à partir de là, Alcuin, donc, personnage nourri d'antiquité, a été à la fois le professeur, le conseiller du souverain, et, si vous voulez, une sorte de ministre de l'éducation nationale et des affaires culturelles, si vous voulez, une transposition hardie avec les situations présentes. Et Alcuin a eu un rôle absolument essentiel depuis 782 jusqu'à la mort de cet éminent personnage survenu en 804. Et les effets, là, sont arrivés très vite. Dans cette renaissance carolingienne, en effet, le point de départ d'une toute une politique procède de l'admonitio generalis de 789. Il y a là toute une série d'ordres à l'échelle du futur empire carolingien qui ressortent. D'abord, dans cet acte-là, une véritable définition du savoir minimum des prêtres dans les paroisses. C'était quand même assez nouveau. C'était encore la création d'écoles paroissiales. On a eu raison, il y a pas mal d'années, de chansonner ce sacré Charlemagne, mais oui, c'est vrai que son rôle scolaire a été essentiel. Donc, création d'écoles paroissiales pour apprendre à lire et à chanter essentiellement aux enfants, et ceci s'organise méthodiquement à partir de 813. Ce n'est pas tout. À un échelon plus élevé, il a instauré l'obligation pour tout évêché et tout monastère d'avoir une école d'un niveau plus élevé qui enseignait notamment le calcul, la grammaire, le chant, et en plus, bien entendu, des matières, si vous voulez, spécifiquement religieuses. Et je vous rappelle au passage que parmi les plus zélés à faire passer ce programme, il y a l'archevêque Leidrad, l'archevêque de Lyon, contemporain de Charlemagne. L'un des plus zélés, certainement, à pousser à l'application du programme au début du IXe siècle. C'était là un point de départ. Il n'y a pas que ça dans cette politique intellectuelle, en quelque sorte, de Charlemagne. Il y a ensuite l'essor de l'école du palais. Bon, tout le monde a plus ou moins en tête l'image Charlemagne visitant l'école du palais. Eh bien, en fait, de quoi s'agit-il? Cette école du palais n'est pas une création de Charlemagne, elle a déjà été esquissée à l'époque mérovingienne. Mais il s'agissait alors d'une modeste initiation à ce que l'on pourrait appeler une pratique administrative. Là, avec Charlemagne, l'école du palais prend une grande importance et devient une sorte d'ENA, en quelque sorte, dans laquelle il y a à la fois une culture générale et une formation professionnelle. Et tous ceux qui ont des postes de responsabilité passent par l'école du palais. Cela donc une élite qui a une même formation et qui va ensuite la diffuser, qui dans des comtés, qui dans les évêchés, qui dans les abbayes. C'est important, cela va donner une sorte de culture commune en Occident. Ce n'est pas tout. Dans cette politique, encore une fois, entre guillemets, intellectuelle de Charlemagne, on ajoutera l'impulsion donnée au scriptoria monastique. Tout le monde sait que tout monastère devait, en principe, avoir ce genre de pièces réservées à l'écriture, à la transcription d'œuvres de l'Antiquité, à la rédaction aussi d'œuvres nouvelles. Mais ce qui se passe, c'est qu'à l'époque carolingienne, sous l'impulsion d'Alcuin, très directement, on voit apparaître la mise au point de la minuscule caroline, terme qui désigne ce type de lettre qui permettait, qui était d'abord plus joli, plus lisible, et qui permettait surtout d'écrire déjà plus rapidement. Cette minuscule caroline semble bien avoir été mise au point par Alcuin, notamment lorsqu'à la fin de sa vie, il était abbé de Saint-Martin de Tours, de 796 à 804. Sous l'impulsion de Charlemagne comme d'Alcuin, On constate aussi le développement de grandes bibliothèques monastiques, à Saint-Riquier, à Corbie, à Jumièges, à Fleury-sur-Loire, à Novalaise, au plateau du Mont-Cenis, au Mont-Cassin, à Saint-Gall, à Corvey, à Fulda, etc. Dans toutes les grandes abbayes, au moins, on en est certain. Charlemagne va encore plus loin. Il demande, il exige la correction des livres liturgiques et de la Bible, craignant qu'il y ait des choses fautives qui circulent dans son empire. D'où l'ampleur de débats doctrinaux auxquels Charles participe personnellement. Et c'est dans ce cadre de ces débats doctrinaux que sont prises des décisions telles que la condamnation de l'iconoclasme en 794, l'achèvement du credo dans sa rédaction définitive après la fameuse querelle avec Byzance sur le filioque, donc la rédaction qui expatrait filioque prochainique date de ce moment-là, c'est-à-dire précisément de 809, donc des interventions qui véritablement ont fait date. D'où, naturellement, ne pouvons pas rester en arrière sur ce développement spectaculaire de l'activité intellectuelle fondée sur les monastères. On a vu, en somme, dans la foulée, se développer forcément des bibliothèques épiscopales aussi, la plus célèbre étant celle de Théodulphe d'Orléans, le fameux évêque, auteur de poèmes et à l'origine de ce petit bijou subsistant, en partie, qui est Germigny-des-Prés, près d'Orléans. Fine transition qui me permet de passer du domaine intellectuel à l'évolution de l'art. Car l'évolution de l'art a bénéficié aussi des impulsions de Charlemagne. Impulsions qui ont été données d'abord pour l'architecture, dans toutes sortes de domaines. Les palais. Il y a eu et la construction de palais, le plus célèbre étant celui d'Aix-la-Chapelle, dont je vous fais circuler une illustration en maquette, qui a été conçu dès 788 jusqu'à la très majestueuse salle de réception, l'Aula Palatina, la grande salle de réception, quelque chose comme 47 mètres de long, j'ai pris les mesures quand même, 20 mètres de large et une hauteur importante, peut-être près de 20 mètres, donc vraiment quelque chose de majestueux. Et de l'autre côté, l'autre galerie, en sens inverse, filait vers un atrium précédant le massif occidental, cette espèce d'antéglise, d'église antérieure, comme on l'appelle quelquefois, de la célèbre chapelle d'Aix-la-Chapelle, cette chapelle inspirée de Byzance pour une bonne part. Et puis, évidemment, il y avait d'autres choses, il y avait les termes, il y avait les dépendances, il y avait bien d'autres choses autour de ce palais tellement important qu'il a vraiment provoqué le développement d'une ville. Mais si celui-là est évidemment le plus célèbre parce que c'était le principal, parce que sa chapelle, même s'il y a eu de sérieuses modifications autour, nous est quand même grosso modo parvenu, il faut savoir qu'il y a eu bien d'autres palais qui ont été construits et dont certains sont connus, notamment dans la région de Mayence. Construction de palais, c'est une activité importante, d'autant plus que l'initiative de Charlemagne a été imitée et que les spécialistes de l'art carolingien ont déjà détecté au moins l'existence d'une centaine de palais dans l'ensemble de l'Empire carolingien. Bien entendu, on construit également des chapelles. Des chapelles qui sont dues pour beaucoup à l'impulsion de prélats de cour, et ici je fais évidemment allusion au meilleur exemple que nous ayons en territoire français, qui est Germigny-des-Prés, édifié vers 800 par donc Théodulphe, évêque d'Orléans, que j'évoquais tout à l'heure. Les cathédrales, elles, suscitent encore beaucoup de débats pour savoir dans quelle mesure on a repris des bâtiments anciens en faisant des adjonctions importantes, notamment de cloîtres, comme à Lyon, ou bien si véritablement on a reconstruit carrément, comme il semble bien que l'on ait repris, par exemple, l'ancienne cathédrale de Cologne, pourvue d'une double abside, une abside à chaque extrémité, selon un usage qui allait être durable dans un certain nombre de cathédrales rhénanes. Les abbayes aussi ont construit beaucoup. Certaines permettent de s'en rendre compte encore, notamment dans l'Allemagne actuelle, l'Orsch, L-O-R-S-C-H, qui se situe en gros au sud-est de Mayence et qui a été réalisé vers 763-764 sous l'impulsion de l'évêque de Metz et qui est une abbaye qui a conservé encore jusqu'à nos jours, miraculeusement presque, une porte monumentale en forme un peu d'arc de triomphe dont l'idée de départ est romaine, mais dont l'allure, lorsqu'on l'aperçoit, je ne sais plus s'il y en a une reproduction sur l'ouvrage qui circule, il me semble que oui, évidemment dénote une toute autre conception artistique. Vous avez également, beaucoup plus près de nous, mais ça, ce sont plutôt les fouilles archéologiques qui l'ont montré, Agone, Saint-Maurice d'Agone, sur le Haut-Rhône, en amont du lac Léman, qui adopte l'église à double abside à la fin du 8e siècle, conformément à un plan standard que l'on a retrouvé et qui est celui, en fait, de l'abbaye de Saint-Gall. Autre abbaye caractéristique, hélas disparue, mais dont on a des reproductions fort intéressantes, Saint-Tula, autrement dit Saint-Riquier, près de, enfin, ou en gros, nord, grossièrement au nord d'Amiens, très, très, très en gros, et donc une abbaye considérable avec une église comportant un atrium à la romaine, le grand massif occidental, cette espèce de, d'église avant l'église qui permettait de développer, pense-t-on, notamment la liturgie, avec sa nef, son transept, son chœur allongé, trois grandes tours. Et surtout, en dehors de cette église principale, cette abbaye fort importante avait l'appui de deux autres églises immédiatement proches qui étaient reliées par des galeries couvertes, de telle sorte qu'il pouvait y avoir en tout temps des processions d'une église à l'autre. Et l'on dit que cette abbaye était d'un effectif considérable, puisqu'elle aurait atteint à certains moments jusqu'à 300 moines. Donc vous voyez, on n'est pas encore au record absolu de Cluny, mais on s'en rapproche sérieusement. Ce qui vous montre l'ampleur de ce que l'on a pu ainsi réaliser. Et bien entendu, il y a d'autres choses que l'on peut encore voir, mieux que l'exemple précédent. C'est Saint-Philibert de Grandlieu qui se trouve au sud de Nantes et là où véritablement vous avez visuellement ce que peut être pour l'essentiel une église carolingienne. C'est vraiment étonnant qu'elle ait pu parvenir ainsi jusqu'à nous. À côté de ça, on construit bien sûr des églises. Certaines sont monumentales. Il y a des régions dans lesquelles elles se sont conservées jusqu'à nos jours, avec parfois des spécificités locales. Je pense notamment à toute cette série d'églises d'époque carolingienne construites dans le royaume des Asturies, dont la capitale était Oviedo, et par conséquent, les églises sont autour, en somme, de cette localité du nord-ouest de l'Espagne. Alors, dans tout cela, et je ne vais pas vous asséner tout ce qui a été réalisé à l'époque, et même tout ce qu'on peut encore voir, ce qu'il faut sans doute retenir, ce sont les innovations. Il semble que de l'époque carolingienne, on peut retenir du point de vue architectural au moins trois innovations. La première, c'est l'organisation des cryptes. Au lieu d'avoir en effet ce que l'on faisait jusque-là, des cryptes que l'on organisait un petit peu de ci, de loin, de ci, de là, de briques et de morceaux, selon les besoins que l'on avait de mettre des sépultures, et dont la crypte de Saint-Victor de Marseille donne encore un peu l'idée la plus primitive, l'idée est venue à l'époque carolingienne de créer des cryptes véritablement organisées, avec des bas-côtés, avec un véritable déambulatoire, en somme, permettant à un maximum de pèlerins de pouvoir approcher des reliques ou des tombeaux de saints personnages. Et donc, cette organisation des cryptes véritablement organisé, ça, c'est un apport de l'époque carolingienne, qui évidemment a continué au début. Autre apport, c'est le fameux massif occidental. Alors là, les historiens de l'art se sont étrivés pour savoir pourquoi on avait éprouvé le besoin, au lieu d'avoir un simple mur de façade, d'ériger véritablement un massif complet, un ensemble architectural complet, à l'opposé, évidemment, du maître-autel à l'Orient, comme il se doit pour une église normalement orientée. Alors, il semble que parmi les interprétations, qui sont nombreuses et pas forcément incompatibles, que ça soit lié notamment à un développement très important de la liturgie qui impliquait de passer devant différents autels secondaires, notamment. D'autres ont lié cela à la volonté de créer une manière de tribune pour l'empereur ou ses plus illustres représentants de façon à avoir, c'est possible en effet, une vue plongeante sur l'ensemble de l'église et donc sur le déroulement de l'office. Il y a eu encore des autres interprétations entre lesquelles il est difficile de trancher, et notamment le fait que cette réalisation aurait constitué une manière d'église paroissiale, en somme annexée à une église principale qui avait une autre fonction. Difficile de trancher, mais en tous les cas, les massifs occidentaux sont là et bien là, et ça a donné une physionomie différente aux églises. Ajoutez-y encore, ça c'est rare, mais ça existe, ça apparaît à ce moment-là, même s'il y avait d'être du temps à s'imposer, on voit apparaître les premières voûtes d'arêtes. J'ai cru moi-même, sur la foi des enseignements de jadis, que c'était quelque chose qui remontait seulement au deuxième art roman. Et effectivement, il est apparu qu'à l'époque carolingienne, on avait déjà eu cette trouvaille, les voûtes d'arêtes étant, comme vous le savez, l'intersection de deux voûtes en berceau. Sans qu'il y ait d'ogive porteuse, bien entendu. Donc, innovation architecturale. Il y a des innovations aussi pour le décor. Décor monumental avec des peintures ou des mosaïques. Et là, fort heureusement, certaines nous sont restées jusqu'à nous. En particulier, dans toute la zone, notamment du massif des Grisons et du Tyrol méridional devenu maintenant italien, vous avez là tout un ensemble d'églises qui ont conservé complètement leur programme carolingien, et c'est sans doute la zone de meilleure densité que l'on connaisse. Sculpture aussi, sur chapiteaux, sur les chancelles, ainsi que l'on appelait la séparation entre le chœur et la nef, ce qui était bien nécessaire, puisque, comme vous le savez sans doute, l'usage semble s'être pris à partir de l'époque carolingienne, et en tous les cas sûrement à partir du Moyen Âge classique, ou au moins jusqu'à l'époque du Concile de Trente, faire de la nef ce que l'on appellerait maintenant dans les campagnes une salle polyvalente. Donc il était particulièrement nécessaire de séparer la zone de l'autel, la zone véritablement sacrée, du reste. Voulez-vous la face, Seigneur ? Bon. Vous aviez une séparation qui n'était pas aussi forte que l'iconostase byzantine, où là, on ne voit plus rien du tout. Non, ça n'allait pas jusque-là, mais enfin, une séparation bien marquée et qui était l'objet d'une décoration sculptée importante. Également, lambeau, terme qui désignait cette sorte de chair placée à proximité immédiate de l'autel, selon un usage qui a été repris ici ou là, et donc qui permettait à la fois les lectures, les prédications. Et donc l'ambon, qui était aussi l'objet d'une décoration sculptée en faible relief, très caractéristique. Décor monumental sans doute, mais décor du trésor aussi. Dans l'ambiance que je décris, il est bien évident que l'orfèvrerie liturgique a pris beaucoup d'importance. Ce sont notamment les devants d'autel qui sont réalisés en métal doré, voire en vermeil. L'usage est adopté à l'époque carolingienne, qui va rester encore souvent à l'époque romane. Ce sont également les calices, Il y en a qui sont superbes. Dans l'ouvrage que je fais circuler, vous voyez notamment le calice de Tassilon, qui est l'un des types caractéristiques de la réalisation de l'époque. On réalise aussi des aiguières, c'est-à-dire de superbes cruches à eau, magnifiquement décorées, et dont le monastère de Saint-Maurice d'Agone conserve encore un très beau spécimen. On réalise également, d'une façon qui constitue de véritables œuvres d'art, des patènes dont l'abbaye de Saint-Denis pu conserver, en somme, encore des exemplaires significatifs. Il y a bien entendu les reliquaires. Et puis là, se disant, je fais allusion encore qu'aux arts du métal, or, les arts du trésor, ce sont également les ivoires dont le travail reprend vigueur à l'époque carolingienne, comme ce sont les enluminures qui vont être pour beaucoup dans la diffusion de tout un message véritablement religieux. Alors, au bout de tout ça, vous vous en rendez compte, on a différentes choses qui commencent à se dégager. L'idée d'une unité sans uniformisation de l'Occident, une idée à la fois fédérale avec respect des usages, des coutumes et des peuples. Et surtout, bien entendu, ce qui est une des marques majeures du rôle de Charlemagne, la dilatation christianitatis, c'est-à-dire l'extension, en somme, de la chrétienté, au moins, à l'ensemble de l'Occident. Et il est bien sûr que dans un esprit vraiment très, très médiéval déjà, le nouveau Constantin que se voulait Charlemagne, tout en prenant appui sur l'Antiquité romaine ou gréco-romaine, a innové beaucoup, ainsi que ses successeurs. Il n'était pas encore à la génération du XIIe siècle où le célèbre professeur de Chartres avait lancé la formule qui résume l'esprit du Moyen-Âge. Nous sommes des nains sur les épaules des géants. Nous sommes des nains parce que par rapport à tous les anciens, nous n'avons pas autant accumulé. Et par conséquent, nous devons nous appuyer sur eux, mais ainsi nous voyons plus loin qu'eux. Ça résume tout à fait l'esprit médiéval à la fois de conservation des acquis et volonté aussi d'aller plus loin. Et là, en l'occurrence, Charlemagne, la formule a déjà été prononcée, elle va l'être quelques siècles après, a déjà ce type d'esprit. Et l'exemple type où l'on peut voir à la fois le respect de ce qui existe et l'innovation, c'est dans un domaine qui a, au fond, beaucoup contribué dans ce monde de l'oral à cette dilatation christianitatis, c'est la musique. Charles, en effet, a imposé le mot, n'est pas trop fort, le chant monodique, c'est-à-dire le chant à une seule voix, correspondant à ce que nous appelons le grégorien, n'est-ce pas, et à la liturgie romaine. Et il a fallu véritablement l'imposer parce qu'il y avait concurrence d'une liturgie gallicane, d'une liturgie wisigothique, d'une liturgie irlandaise. Et c'est véritablement à partir de 786 que cette politique-là s'est accélérée. Pépin le Bref, notez bien, l'avait déjà esquissé sur le conseil du pape Étienne II, qui souhaitait généraliser, si je veux employer une formule courte, le grégorien, et en se fondant sur, en fait, la codification de cet art du chant, telle qu'elle avait été faite par le pape Saint Grégoire le Grand durant son pontificat entre 590 et 604. Il y a donc une codification de quoi ? D'abord du chant en solo, ensuite du chant en solo, mais avec réponse des fidèles, ce que l'on appelle très logiquement le chant responsorial, et puis vous avez également le chant à une seule voix, mais de deux chœurs qui se répondent l'un après l'autre, et c'est ce que l'on appelle le chant antiphonique. Donc, ces types de chants, en somme, se codifient, et sous Charlemagne, les centres musicaux se multiplient, Metz ayant sans doute le rôle essentiel, Rouen aussi, et d'autres centres secondaires également. Et beaucoup de chants dit grégorien, date en fait du règne même de Charlemagne, et l'on pense notamment que le fameux Christus Vincit est notamment de ce moment-là. En tous les cas, s'il n'y est pas, il est bien dans l'esprit de Charles. Et Charlemagne, par ailleurs, ne s'est pas contenté d'imposer le champ monodique, il a très involontairement, il est vrai, suscité des recherches musicales qui allaient déboucher sur une innovation en matière du chant, qui est la polyphonie, dont on oublie trop souvent que c'est une création du IXe siècle, et dont les principes devaient être indiqués très précisément par un célèbre penseur du milieu du IXe siècle, qui est encore ici ou là bien étudié, Scott Erigen. Et cette recherche, c'est à peu près, en somme, déjà l'art du contrepoint, à deux ou trois mélodies, et plus tard, on allait venir à un système à deux rythmes différents. Ces recherches-là sont aidées par la mise au point de partitions, de partitions qui restent encore modestes, c'est vrai, c'est pas encore le temps de Guy d'Arezzo, mais enfin, déjà, il y a des inventions. Inventions notamment des neumes, c'est-à-dire des signes qui indiquent la hauteur des sons. Et d'autre part, des tropes qui sont les syllabes du texte placées sous les neumes, qui permettent donc au chanteur immédiatement de savoir comment il doit interpréter ce qu'il a sous les yeux. Et véritablement, on a là, que ce soit dans le domaine, en somme, de la recherche musicale en général, que ce soit dans le domaine plus précis que je viens d'évoquer, le point de départ d'un demi-millénaire, finalement, de production musical, sacré et profane, c'est un point de départ qui n'est pas mince. Bien sûr, tout n'est pas inventé à l'époque carolingienne, bien sûr, la portée définitive va arriver au XIe siècle, bien sûr, la grande musique instrumentale ne va pouvoir, elle, ne prendre tout son essor qu'après toute l'évolution des instruments dans la période, en gros, du XIe au XIIIe siècle, mais déjà l'Occident latin, par l'invention, l'Occident latin est plus septentrional, n'est-ce pas, par l'invention de la polyphonie, dépassait déjà Byzance qui en restait à la monodie méditerranéenne, et le dépassait donc dans l'art du cœur des anges pour chanter la gloire de Dieu. Il y a donc une unité, vous le voyez, du même coup des livres liturgiques romains, ce qui n'est pas du tout incompatible, parce que Charlemagne a aussi donné des ordres dans ce domaine-là, avec la diversité des langues de prédication. C'est ça, sans doute, l'intelligence de Charlemagne, unité qui n'est pas uniformisation. Finalement, et je conclue là-dessus, rassurez-vous, parce que Charlemagne, on peut en rester encore des heures là-dessus, Charlemagne a laissé, au fond, une longue postérité qui est religieuse, vous venez de le voir, comme elle est aussi, par ailleurs, politique, mais politique au sens le plus large. Il s'agit, au fond, de la construction entreprise d'un vaste Occident chrétien, à la fois uni, on l'a vu, et pouvant néanmoins laisser subsister des royaumes distincts, des marges, et des choses qui ont des entités géographiques, de géographie politique qui ont leur personnalité propre. Et ce travail-là est vraiment bien lancé par Charlemagne et va être continué par ses immédiats successeurs, particulièrement Charles le Chauve, durant le IXe siècle. Tout n'a pas pu être mené, évidemment, pendant un seul règne, et Charlemagne n'y comptait point, mais même si tout n'est pas achevé, il faut quand même savoir que l'Angleterre, et même la péninsule ibérique, se trouve fortement influencée par ce qui se fait dans cet empire carolingien, même si elles n'en font guère partie. Et surtout, même si cet empire carolingien, cette construction de Charlemagne, par avoir peu de durée, après tout, comme empereur, il a régné de 800 à 814, c'est pas long. Bon. Et ses successeurs, de valeur variable, ont duré jusqu'en 888, si on tire au maximum de ce que l'on peut arriver de tirer, 887 ou 888, ou mois après. Bien, ça paraît très court, oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, après une interruption qui n'est pas si longue que ça, le Saint-Empire romain va se charger de continuer la politique carolingienne à bien des égards, va se charger notamment de rallier les Slaves de culture à la culture latine, notamment la Pologne, la Bohême, et va également se charger de développer ce que les Carolingiens n'avaient pas eu le temps de faire encore, ils l'avaient esquissé, des influences très fortes sur les Vikings, influences qui vont provoquer la christianisation des Vikings, essentiellement sur les 10 et 11e siècles. Et ce Saint-Empire romain vit véritablement sous l'image de Charlemagne, à telle enseigne que, j'y faisais allusion tout à l'heure, Frédéric Ier Barberousse, à la fin du 12e siècle, va éprouver le besoin de faire canoniser Charlemagne. Et l'idée, au fond, va rester. Et les idées de Charlemagne vont continuer à circuler, même chez un personnage à la fois fascinant par son envergure et quelque part répulsif aussi par ses déloyautés de futurs comtes de Thiers, comme Frédéric II, dans la première moitié, l'empereur de la première moitié du XIIIe siècle, est allé jusqu'à développer une idée fédérale unissant des principautés, sinon des royaumes. Donc, vous voyez, les idées, elles continuent à cheminer. Ce qui vient qu'au total, on se rend bien compte que pour être durable, l'Empire doit être saint et romain. Autrement dit, il ne doit pas être qu'une autorité supérieure imposée, saint avec toute la dimension chrétienne, et romain avec ce que ça peut comporter d'esprit d'universalité. C'est dans ce sens-là qu'il faut évidemment le voir. Et évidemment, si les empereurs du Saint-Empire romain allaient continuer les premiers dans cette voie-là, les autres devaient plus ou moins s'en écarter. Et pour avoir refusé de prendre en main tous les éléments d'un Saint-Empire romain qui était déjà inclus dans l'idée de Charlemagne, eh bien, tous les mauvais imitateurs ont ensuite échoué. Que ce soit un Charles Quint, un Napoléon, pour ne pas parler plus près de nous, a fortiori, des chefs indignes des Second et Troisième Reich. Alors, cela dit, que sera l'avenir? On n'en sait rien, mais tout ce que l'on peut dire, c'est que Charlemagne a vraiment vigoureusement marqué l'Occident chrétien. Je vous remercie. J'ajouterai juste pour prévenir peut-être quelques questions que l'ouvrage qui reste sans doute le meilleur, même si certaines de ses conclusions sont discutables, reste l'ouvrage des gens anciens de Louis Alphen, H-A-L-P-H-E-N, Charlemagne et l'Empire carolingien, qui a été maintes fois réédité, et également... On peut se reporter au travail de Robert Foltz, F-O-L-Z, sur le couronnement impérial de Charlemagne. Maintenant, cela dit, des Charlemagnes, il en est beaucoup sorti et qui sont intéressants. Joseph Calmette, Tessier, Jacques Boussard, Robert Delors, ont sorti leur Charlemagne. C'est intéressant parce que les visions souvent se complètent. Enfin, je signale que cet ouvrage anglais traduit en français que je fais circuler, je ne sais pas où il se promène, mais j'espère que tout le monde arrive à le voir, vous permet, intitulé Le siècle de Charlemagne, vous permet de vous faire un peu une idée de la production artistique et au-delà de la production artistique, souvent des préoccupations religieuses de Charlemagne. Je suis, cela dit, à votre disposition pour tenter de répondre à vos questions s'il y en a. Bon, très facile de répondre à cette question parce que En somme, ce qui me gêne, c'est simplement une chose, c'est que dans les abbayes de l'époque, on a à la fois, bien entendu, des abbayes anciennes et des abbayes contemporaines. Donc je ne sais pas exactement comment vous voyez la chose. Ce que je peux dire simplement, c'est que je peux répondre en disant que un peu partout, dans chaque région, on commence à voir apparaître des monastères. Au lieu que ce soit quelque chose encore d'exceptionnel, comme à la période précédente, à partir de la période carolingienne, les implantations monastiques commencent à se multiplier. On n'est pas encore à la plus grande période de l'élan monastique qui a été le XIIe siècle. On n'est pas à l'époque où tous les prieurés clunisiens sont en place, où les granges cisterciennes le sont, etc., etc. On n'est pas encore là, c'est vrai. Mais le début du très grand élan monastique part quand même de l'époque carolingienne, point de départ. Et sur les 8-9e siècles, et le point d'arrivée, au moins pour le monde rural, est le 12e siècle. On est donc à un point de départ intéressant. Et puis, de notre côté, quant aux effectifs, on n'a pas, bien entendu, à une époque qui ignorait la statistique au Mani, on n'a pas grand-chose dans le genre à se mettre au soleil. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que seules des très grandes abbayes, comme celles que j'ai évoquées, pouvait monter à une centaine ou plusieurs centaines de moines. Ça restait quand même exceptionnel et il semble pour autant qu'on puisse se rendre compte, encore une fois, hein, avec les éléments que l'on a, c'est pas simple, que déjà un certain nombre de monastères commençaient à se rapprocher de ce qui allait être, si on peut me permettre l'expression, l'effectif de croisière, c'est-à-dire aux alentours de 30-40. Mais dit bien, la documentation ne permet pas toujours d'aller très très loin. Eh bien, justement, alors là, vous allez m'entraîner loin, méfiez-vous. tant pis. En effet, Charlemagne a réussi une performance tout à fait étonnante, peut-être pas unique dans l'histoire, mais en tous les cas très rare, c'est de construire un immense empire en se passant à peu près de la monnaie. Non pas qu'il n'y en ait pas une, quand même. Bon, si on voulait faire Romain, tout de même, hein, il fallait qu'il y ait une monnaie. Il y a eu, en effet, lancement d'un denier carolingien qui a servi pendant des siècles d'élément de référence. Mais il ne faut pas se leurrer, car au-delà des textes que l'on peut avoir qui nous définissent d'une façon très intéressante les conditions précises de la frappe, on s'aperçoit, lorsqu'on regarde la réalité des choses, premièrement, que sur les sites archéologiques, les trouvailles de ce genre sont plus que rarissimes. Mais ce n'est pas forcément en soi un indice. Que, surtout, Charlemagne avait mis en place des moyens qui lui permettaient systématiquement de se passer de la monnaie. Je prends quelques exemples pour ne pas être trop long dans ma réponse. Le palais des places. Bon, il faut ainsi nourrir un certain nombre, ou plutôt un nombre certain, de personnes et d'animaux. Comment faire ? Pas en allant acheter des produits, comme on le ferait de nos jours, non. Il utilise tout bonnement, par dérivation d'un procédé qui avait existé à Rome, notamment pour les essais de transmission postale, le système du droit de gîte. Et par conséquent, il se rend ici chez un comte, là chez un évêque, là chez un abbé, qui se charge pour l'étape de faire face aux frais en question. Pas de dépenses. Comme tout de même, il faut bien à certains moments ne pas compter uniquement là-dessus, et Charles bénéficie bien sûr des revenus des domaines. Il y a des domaines impériaux et dans ces conditions, vous devinez que le fameux capitulaire des villis, c'est-à-dire les capitulaires consacrés aux grands domaines que l'on appelait des villes, à la mode romaine justement, eh bien ce capitulaire est fondamental puisque c'est un des éléments de ressources essentiels qu'a l'Empire. Oui, mais les produits des domaines sont fournis en nature et sont consommés de même. Donc on se passe de la monnaie. Ce n'est pas tout, il y a d'autres secteurs. Charles fait appel à des comptes. faut bien leur donner une contrepartie à ces comptes. Que va-t-on faire? On va mettre à leur disposition, en raison de leur charge, et pas autrement, en raison de leur honneur, comme on disait, on va mettre à leur disposition quelques domaines ou droits qui relèvent du souverain, d'une part, et en plus, on va ajouter une part sur les amendes de justice. Et hop, pas de monnaie. Donc, continuellement, puis je peux continuer, la litanie, systématiquement, tout est organisé, en somme, pour se passer à peu près de la monnaie. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour vous surprendre, puisque, autant qu'ils m'en souviennent, je crois qu'en définitive, il n'y a eu que 3 ateliers monétaires qui ont fonctionné sous le règne de Charlemagne, et ça a été loin d'être de bout en bout. Donc, à l'échelle de l'Empire, autant dire que ce n'était pas grand-chose. C'est une performance tout à fait étonnante, justement, que Charlemagne ait réussi à constituer un ensemble d'une taille pareille en se passant à peu près de la monnaie, sauf à en avoir, parce que ça avait un côté symbolique, indispensable pour faire Rome.
Pourtant, chaque soldat, pourtant,
attend
sa somme,
sa monnaie. À l'époque carolingienne ? Attendez. Voire disait Panurge, qui n'était pas encore né, ce que l'on attendait, à ce moment-là, les participants attendaient, que ce soit les membres de l'aristocratie qui avaient fait les plus gros efforts d'investissement financier en équipement, ou que ce soit leurs hommes qui leur suivaient et qui en avaient fait beaucoup moins, mais qui avaient aussi de moindres moyens, tout le monde espérait se récupérer, et se récupérer comment ? Par le butin. Donc, vous comprenez bien que, à partir du moment où Charles, pendant son règne, a mené une guerre qui a été à peu près systématiquement victorieuse, les échecs ont été vraiment rarissimes, eh bien, Charlemagne a été vraiment l'empereur chéri de tout le monde. Mais à partir du moment où son successeur, le fameux Louis le Pieux, lui, s'est trouvé cantonné, soit dans des guerres défensives, soit pire encore, dans des guerres à caractère qui étaient tout à fait intestines, à ce moment-là, mais c'était plus intéressant du tout. Je l'ai conçu. Donc, du même coup, on a eu une chute très nette, une chute verticale, plongeante, comme vous voudrez, des fidélités. Et du même coup, ça a posé effectivement la question du mode de rémunération, et qui était une question embarrassante, parce que comment faire pour les rémunérer? On était dans une économie qui n'était pas monétaire. Après, quand elle est redevenue monétaire au Moyen-Âge classique, on a trouvé d'autres solutions. Mais quand on n'a pas de monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas beaucoup de solutions. Si vous voulez avoir des fidélités, il va falloir distribuer ou de la nourriture, des vêtements, etc. à la mode antique, qui était un procédé, ou alors de distribuer des terres. Mais si on se met à distribuer des terres, ben les Carolingiens vont devenir ce qui est arrivé aux Mérovingiens, c'est-à-dire des gens sans terre, donc sans intérêt, donc des gens qu'on ne suit pas. C'est d'ailleurs finalement ce qui leur est arrivé, parce que les successeurs de Charles n'ont pas pu inventer des solutions de rechange. Et ce n'est que par la suite qu'on a mis au point petit à petit d'autres procédés, non seulement on a mis au point le système du fief, bien sûr, mais là, il y a quand même perte des droits sur la terre pour le concédant, mais surtout, on a mis au point, au lieu du fief classique portant sur des terres, des fiefs rentes, c'est-à-dire des fiefs dont la contrepartie était le versement d'une rente, ce qui évitait de perdre des terres, ou plus tard encore, mais là, c'est surtout à partir des 12-13e siècles, 13e surtout, les concessions d'office, c'est-à-dire fonction publique. Mais vous voyez, pendant longtemps, il y a eu ce problème. À partir du moment où toute la puissance dépend directement de la terre et qu'on ne peut pas se retourner vers des formules monétaires, eh bien, il faut arriver à trouver des solutions de ce genre et des solutions qui, par certains côtés, restent précaires. Voilà pourquoi la question des moyens de contrôle était si importante. Oui. Alors, sur le déroulement général de la guerre, Charlemagne, pour sa part, comme ses devanciers immédiats d'ailleurs, avait conçu la chose sous la forme d'une mobilisation qui avait lieu normalement au printemps, non pas l'époque du champ de Mars à la romaine, parce que là, il fallait faire brouter les bêtes, on avait changé de situation, donc c'était plutôt en avril ou mai, hein. Et à partir de là, des opérations qui pouvaient avoir lieu dans la suite, tout l'été, l'automne, également, beaucoup plus rarement en hiver. Bon. Il s'agissait toujours de constitutions d'armées très lourdes, qui était normalement encadré chaque fois par des unités d'élite, les fameuses caras auxquelles je fais allusion, et qui comportait obligatoirement, ce qui les ralentissait beaucoup, toute une théorie de chariots portant des vivres, car on n'allait pas vivre sur le pays, dans les pays à mi-traversés, portant également des armes de rechange, portant des outils, parce que là où on allait aller, il fallait falloir s'organiser, et il est évident que une organisation de ce genre faisait que les déplacements étaient fort lents, et ça n'avait pas d'incidence tant que Charlemagne était à l'offensive. Le jour où ses successeurs ont eu affaire à des adversaires extrêmement mobiles comme les Vikings, alors là, ça s'est sérieusement gâté. Et il a fallu que les Carolingiens inventent une autre solution qui a été celle de Charles le Chauve, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les grands commandements, qui n'avaient rien à voir avec ce que vous savez. Il s'agissait en l'occurrence de grouper sous une même autorité militaire un groupe plus ou moins important de comtés qui devaient par eux-mêmes organiser la riposte immédiate. Et on a fini par trouver la solution. Mais difficilement, parce qu'encore une fois, ces armées carolingiennes sont très très lourdes. Quant à l'autre aspect de votre question, il faut bien vous dire que on ne peut vraiment pas être certain qu'il y ait eu un grand souci de protéger les non-combattants avant que l'Église ait mis en place ces fameuses institutions de paix et notamment la célèbre paix de Dieu. Donc c'est véritablement surtout à partir du XIe siècle. Ça ne veut pas dire que les non-combattants étaient systématiquement trucidés, non, mais il pouvait quand même leur arriver des choses assez fâcheuses si, tout au moins, les chefs d'unité n'estimaient pas que c'était des gens intéressants dans un domaine ou dans un autre. Je veux dire par là des gens intéressants pour faire vivre un pays qu'on voulait occuper durablement, ou à l'inverse, des gens intéressants parce que tout simplement, malgré des interdictions déjà répétées depuis longtemps de l'Église, il arrivait qu'il y ait encore des ventes d'esclaves. C'est l'extrême fin à l'époque carolingienne. C'est l'extrême fin. L'Église s'est battue avec acharnement pendant tout le haut Moyen-Âge pour remplacer l'esclavage par le servage, ce qui était déjà un immense progrès. Ce n'était pas encore la liberté, mais quand on sait l'énormité des différences de situation entre serf et esclave, on mesure quand même le chemin parcouru, à condition évidemment de voir ce que étaient réellement les serfs et non pas d'en retenir des images purement romantiques. Oui, normalement, oui. Oui, quand même, en général, enfin, du moins, il y avait des injonctions très fermes qui allaient dans ce sens. Et il n'était quand même pas très bon de badiner avec les instructions de Charlemagne. Ça pouvait mal se terminer pour les intéressés. Très mal, même. Ah, attendez. Pardon, monsieur. Cette... Hein? Oui, il est certain que la canonisation de Charlemagne a été voulue dans la seconde moitié du XIIe siècle, j'ai plus la date en tête, par Frédéric Ier, alias Barberousse, parce que, comme c'était la référence essentielle et constante du Saint-Empire, c'était une manière de canoniser celui qui n'était pas, certes, le fondateur réel du Saint-Empire romain, mais celui qui était le modèle de référence obligé. Et alors, évidemment, on pourra, nous, penser ce qu'on veut d'une canonisation, d'un personnage qui a fait énormément, incontestablement, pour la chrétienté, mais dont à certains moments, la vie aussi bien privée que publique n'était pas tout à fait absolument conforme à l'idée que l'on se fait d'un saint. Enfin, on n'a peut-être pas les mêmes idées qu'à l'époque. Excusez-moi, monsieur. Alors, la question des rapports avec Rome devait forcément se poser, puisqu'il fallait qu'il y eut un couronnement à Rome. Donc, la question des rapports avec la papauté se posait. Elle ne se posait pas dans les termes que l'on aurait de nos jours, puisque je vous ai exposé tout à l'heure qu'il s'agissait, si on peut me permettre cette expression, d'une église très décentralisée, dans laquelle tout se jouait à l'échelon de la province ecclésiastique. Donc, le rôle de la papauté n'était pas du tout celui qu'il a été depuis, la seconde moitié du XIe siècle, ou a posteriori plus tard. Néanmoins, la question s'était posée. Alors, je suppose que votre question porte uniquement sur Charlemagne. Bien. Pour Charlemagne, c'est très clair. Pour lui, étant donné le rôle qu'il estime devoir jouer en tant qu'empereur sacré, le pape, dans son esprit, est réduit à une sorte de grand prêtre. Et un homme de prière, un homme qui est respectable, qui est le premier d'entre les évêques, mais pas plus. Hein. Et donc, à partir de là, il aurait tendance, il n'est pas allé quand même à fond jusque-là, mais on a prononcé à son propos, à propos de Charlemagne, le nom de césaropapisme. Il a eu tendance, en effet, à capter la direction de la chrétienté et à marginaliser le rôle du pape. Ah oui, 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 oui. Si encore Pépin le Bref, qui avait lui besoin, son père, d'arriver à faire reconnaître un pouvoir de fait pour le transformer en pouvoir de droit, y est allé encore avec de grands égards, Charlemagne, lui, y est allé beaucoup plus franchement. N'imaginez d'ailleurs pas que cette politique de Charlemagne ait suscité de la réprobation. Parce que, ce faisant, qu'est-ce qui se passait? Vous l'avez vu, il confortait, au fond, l'autorité des archevêques et des évêques, qui ne demandaient pas plus, qui ne demandaient pas mieux. Donc, on peut dire qu'à la limite, sauf peut-être à Rome, tout le monde s'en trouvait largement satisfait. Comment? Même à Rome, ils se sont laissés faire. Il y a des moments quand même où. C'est pas si, tout à fait si simple, mais c'est vrai que. Comment? Oui, notamment. Oui. Sûrement. Puis. Oui, il y a eu quelques papes quand même notables, mais surtout plus tard Jean VIII qui a été, mais ça on est plus tard que, Charlemagne. Non, je crois que la papauté a passé sur un certain nombre de choses, dès lors que Charlemagne, premièrement, assurait une protection dont il faut dire qu'elle était nettement indispensable, puisque au fond du Nord, il y avait eu longtemps la menace lombarde, et d'une. De l'Est, ça peut-être vous surprendre, mais il y avait quasiment une menace byzantine, parce que quand on sait la façon dont les Byzantins en ont usé avec les papes, lorsqu'ils le pouvaient, les mettant en détention, parfois en viager, des choses comme ça, quand les papes ne suivaient pas leurs injonctions, n'étaient pas de leur avis, ils avaient quelques raisons de se méfier. Et puis ajoutez-y en prime des menaces potentielles, peut-être moins grave, mais enfin quand même existante de la part des Sarrasins du Sud qui essayaient de s'infiltrer par la Sicile et de remonter la péninsule, la protection de la papauté, c'était vraiment une nécessité absolument impérieuse. Mais on comprend dans ces conditions que à partir du moment où les Carolingiens représentaient vraiment la solution de rechange par rapport à Byzance, qui avait été comme héritière de l'Empire romain jusque-là la protectrice, mais qui ne pouvait plus l'être en raison de divergences doctrinales que vous savez, savez, dans ces conditions, Rome, enfin la papauté plus exactement, appréciait forcément les Carolingiens. D'autre part, comme non seulement Pépin le Bref avait créé des états, ce qu'on appellerait maintenant des états de l'Église, même si ça n'a pas été formulé comme ça exactement à l'époque, et que Charlemagne s'est mis en devoir d'essayer de l'étendre, et du même coup, cela donnait quand même à la papauté